Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Où nous mène l'intelligence artificielle ? Elle est devenue incontournable. Les secteurs de la santé, de l'industrie, de la défense ou encore du journalisme y ont recours. Pour la première fois en Amérique du Sud, une présentatrice virtuelle a fait ses débuts à la télévision mexicaine.
Journée spéciale ce lundi sur RFI. Dans nos émissions, nos journaux, nous essayons de mieux comprendre l'intelligence artificielle. Elle est partout aujourd'hui. Dans la santé, l'industrie, la défense, la pub et le journalisme. Donc on va le voir dans notre dossier du jour. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
L'intelligence artificielle commence à se faire une place dans le paysage médiatique en Amérique latine. Le Mexique, par exemple, a vu apparaître récemment un nouveau visage à l'écran.
C'est sous le slogan « Le futur est arrivé » que le groupe audiovisuel privé Formula a dévoilé en mars dernier sa nouvelle collaboratrice Nat, qui s'est présentée elle-même à son public.
Hola.
Bonjour, je suis Nat, la nouvelle présentatrice d'information du groupe Formula, la première de ce genre en Amérique latine. Mon visage, mes cheveux, mon corps et ma voix ont été créés par l'intelligence artificielle. Cela vous offre une expérience de journalisme innovante et pleine d'émotions. Je suis en constante évolution technologique afin de m'améliorer et de vous offrir la meilleure information possible.
Avec sa voix robotique et ses mouvements un peu artificiels, Nat est facilement identifiable comme un avatar virtuel. Elle apparaît sur un écran en studio et répond à des vrais présentateurs qui lui demandent par exemple les dernières tendances de l'actualité politique sur les réseaux sociaux. Des présentateurs de télévision virtuelle, le Venezuela s'en sert aussi, mais à des fins de propagande. Dans ces vidéos présentées en anglais, des journalistes virtuels ne tarissent pas d'éloges sur les prouesses du gouvernement vénézuélien. Ces clips générés par un programme d'intelligence artificielle tournent sur des plateformes comme TikTok et sont également repris par la télévision officielle du Venezuela. Pour l'anecdote, les créateurs de ces vidéos à la gloire du gouvernement chaviste utilisent un programme américain pour créer leur journaliste avatar, alors que le site du chatbot ChatGPT a été bloqué par les autorités vénézuéliennes. Sur les réseaux sociaux, des tutos fleurissent pour expliquer comment contourner cette interdiction.
Je veux enseigner à comment nous pouvons ouvrir de façon facile et sencilla le ChatGPT.
ChatGPT n'est pas interdit au Brésil et les médias brésiliens commencent à s'en servir pour certaines tâches rédactionnelles. C'est le cas du journal en ligne Nucleo, spécialisé dans les informations sur les innovations technologiques. Le rédacteur en chef, Sergio Spagnolo.
Nous sommes en train d'expérimenter avec l'intelligence artificielle, par exemple, pour écrire des résumés d'articles que nous publions sur notre site. Pour l'instant, nous avons publié 2 résumés, mais c'est vraiment encore une phase de test. Nous utilisons l'intelligence artificielle surtout pour surveiller les réseaux sociaux et repérer des sujets.
Ce site d'information a été le premier et pour l'instant le seul média au Brésil à avoir publié une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Un geste de transparence important selon Sergio Spagnolo qui affirme que jamais un article ne sera entièrement rédigé par un logiciel.
Haïti. À l'issue de 3 jours de discussion en Jamaïque, les différentes forces politiques et organisations de la société civile ont fait 6 propositions pour tenter de sortir de la crise politique et sécuritaire, mais sans parvenir à un accord. Alors que des violences secouent encore et toujours le pays, constate Radio France Internationale.
L'avenir d'Haïti, au cœur en ce moment d'une réunion de la CARICOM, la communauté des Caraïbes. 3 jours de débats politiques. Alors que le pays se trouve toujours dans une impasse sans président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021, un pays dirigé par un Premier ministre qui n'a pas obtenu la confiance et dont le Parlement n'est plus légitimé par les urnes. Et Christophe Paget, il n'est pas sûr que ces 3 jours de débat en Jamaïque permettent d'avancer.
En tout cas, ce dimanche, les discussions ont commencé dans une atmosphère, semble-t-il, tendue. Le Premier ministre Ariel Henry a d'abord indiqué qu'il n'était pas venu à la Jamaïque pour signer un nouvel accord. Il s'est félicité de l'action de son gouvernement et de sa volonté d'établir un dialogue pour que le peuple haïtien puisse choisir ses dirigeants, annonçant la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire, un remaniement ministériel et une révision constitutionnelle. Ariel Henry a aussi critiqué l'équipe de l'accord de Montana qui, selon lui, voulait accéder au pouvoir sans passer par les élections. Mais pour l'ancien Premier ministre Claude Joseph, le chef du parti Les Engagés pour le Développement, s'est lui aussi exprimé, c'est Ariel Henry qui est animé par la volonté de garder le pouvoir en toute illégitimité le plus longtemps possible. Ariel Henry qui, après son discours, a cédé la place à ses représentants, quittant la salle sans prendre le soin d'écouter les différentes propositions de sortie de crise des partis présents. Attitude qui ne plaît pas à de nombreux participants, écrit dans un tweet Gazette Haïti. Et selon le site d'information Alter Press, les acteurs politiques et de la société civile réclameraient la présence physique du Premier ministre à la table des discussions pour les 2 derniers jours de la rencontre.
À son retour en Haïti, le Premier ministre a dressé un bilan en conférence de presse des discussions politiques du début de la semaine en Jamaïque. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Anne.
Selon votre journal, Ariel Henry s'est surtout employé à maquiller un échec.
Bon, en réalité, tout le monde a maquillé un échec, à la fois Ariel Henry, mais aussi les partis de l'opposition qui ont sorti une déclaration dite de Kingston. Pour le Premier ministre, tout s'est bien passé. Il y a eu des conversations, des discussions. On a essayé de trouver un consensus. On n'a pas pu le faire. On va continuer à se parler. Il est même question que les 3 anciens premiers ministres des pays de la CARICOM viennent en Haïti pour continuer à mettre ensemble les Haïtiens. Ça, c'est le verre à moitié vide. Et le verre à moitié rempli, c'est les partis de l'opposition qui ont signé une déclaration commune où ils ont réitéré les mêmes positions qui sont leurs positions depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'ils réclament un gouvernement multicéphale avec une présidence collégiale, un premier ministre et un autre plan de transition où Ariel Henry n'a pas vraiment sa place. Les 2 partis sont revenus à leur position de départ. Ariel Henry se dit disposé pour le dialogue. Les partis de l'opposition demandent quelque chose qu'Ariel Henry n'est pas prêt à concéder.
En fait, c'est très simple et vous le résumez dans un édito. Tout s'est bien passé pour tout le monde en Jamaïque, sauf pour Haïti.
Tout à fait. Chacun a pu conserver sa position. Personne n'a perdu la face. Et pour la première fois depuis 2 ans, quasiment toute l'opposition et le Premier ministre Henry et ses amis, ses alliés se sont réunis dans une même salle. Cela a duré 3 jours. Ils ont pu se parler. Mais à la fin, il n'y a pas de déclaration commune, il n'y a pas de résolution. On n'a même pas pu s'entendre sur quand est-ce que finira la transition. Parce qu'en réalité, les 2 camps ne veulent pas de la même transition. Haïti n'a pas gagné dans ce qui s'est passé en Jamaïque.
Lors de sa conférence de presse, Ariel Henry a quand même reconnu que la transition avait duré suffisamment longtemps.
Le Premier ministre est toujours très ouvert aux critiques et en même temps, il anticipe. La transition a duré, ça fait très longtemps, mais pour le moment, on n'a ni constitution, ni comité qui travaille sur une réforme de la constitution, ni décision pour dire que les prochaines élections auront lieu avec l'ancienne constitution. Il n'y a pas de conseil électoral, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien du tout et il n'y a pas de sécurité.
Franz Duval, vous revenez aussi dans le Nouvelliste sur l'extrême prudence de la justice haïtienne dans le dossier Petro-Caribé. Ces centaines de millions de dollars de dons venus du Venezuela et dilapidés de manière pour le moins opaque.
Des milliards de dollars ont été dépensés et pas toujours de la meilleure façon. Pour le moment, l'ULCC qui s'occupe de la lutte contre la corruption n'a pas touché au dossier. L'ULCC explique qu'il y a un juge d'instruction déjà sur l'affaire. Mais on n'a pas de nouvelles du juge d'instruction depuis des années. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a sorti des rapports, qui sont des rapports préliminaires, mais ça fait 3 ans que la Cour n'a pas donné suite à ses propres rapports, parce que les ministères ne collaborent pas, les administrations ne transmettent pas les dossiers, et pour le moment, tout est bloqué au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la justice pénale, que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption, que ce soit au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et un conseiller l'a dit au Nouvelliste, tout le monde a peur de toucher à ce dossier où des intérêts importants sont en jeu.
vraiment ou peu, en tout cas, de perspectives de sortie de crise politique pour l'instant, alors que le pays sombre également dans un enfer sécuritaire, au point que depuis le mois d'avril, des habitants s'arment et affrontent eux-mêmes les gangs qui endeuillent Haïti. Pour faire le bilan de ce phénomène, Bois-Calais, nous avons échangé avec Gédéon Jean, directeur exécutif du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Le CARD a déjà dénoncé 160 lynchages, en grande majorité à Port-au-Prince. Et Gédéon Jean, vous avez pu constater des effets concrets de ce phénomène.
Jusqu'à présent, les impacts du mouvement Bois-Calais sont quantifiables, avec 160 présumés membres du gang exécutés pour la période du 24 avril au 24 mai 2023. Il y a une réduction considérable des enlèvements, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, de 70%. Et enfin, il y a une diminution des cas d'assassinat pour la période considérée, 43 recensés contre 146 pour le mois d'avril, donc du 1er au 23 avril, et 86 pour le mois de mars. Et donc, c'est une baisse respective de 70% et de 50%. Donc, en termes de résultat d'efficacité, on voit vraiment que la sécurité, ça diminue considérablement en Haïti.
Peut-on dire, comme l'a fait la presse à plusieurs reprises, que la peur a changé de camp?
Oui, tout à fait, parce que actuellement là, et ce sont surtout les membres de gang qui sont dans la peur. Donc, apparemment, tout se passe plus ou moins bien sur Port-au-Prince. On peut circuler, bon, on ne peut pas passer mal de ça, mais dans l'imaginaire des gens, dans l'opinion vraiment, on voit qu'il y a un minimum de sécurité qui vient. Donc, la peur actuellement, c'est dans le camp des présumés bandits.
Donc, il y a des effets, ce mouvement est efficace, mais jusqu'à quand, Gédéon Jean? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de représailles et de cycle assez infernal de la violence, en fin de compte?
Oui, nous ne savons pas précisément. Nous sommes toujours dans l'observation. Et cependant, nous pensons que le mouvement Bois-Calais ne peut pas être une solution durable. Sinon, ce sera le chaos. Par exemple, dans le bazar Thibonite, déjà, il y a deux groupes qui s'affrontent, et la coalition est constituée d'un groupe armé et des citoyens. Eh bien, la coalition affronte le gang de Savien. Donc, il y a des décès dans les deux camps, des lynchages dans les deux camps. Donc là, c'est un indicateur clé qui montre que l'État vraiment a la responsabilité d'intervenir pour rétablir l'ordre.
Alors, ça fait partie des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'on parle de groupes qui se constituent et qui s'arment? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui passent à l'action régulièrement, ou bien est-ce que ce sont des mobilisations spontanées et uniques?
Bon, en fait, dans certaines zones, il y avait des initiatives un peu isolées pour tenter de résister aux assauts des gangs. Donc, le mouvement Bois-Calais, c'est surtout la population civile, mais dans certains cas, on voit qu'il y a des groupes armés vraiment qui s'allient avec la population pour affronter d'autres groupes. C'est le cas de Bazar Thibonite avec la coalition pour sauver l'Artibonite.
Est-ce qu'il existe un risque aujourd'hui de guerre civile, selon vous?
C'est une hypothèse à envisager, et c'est pourquoi nous plaidons pour que les institutions chargées de la sécurité et de la justice interviennent, notamment la police, le ministère de la justice, le ministère de l'intérieur. Sinon, le risque d'une guerre civile est à considérer.
Et vous interpellez les autorités, la police, la justice. Que pensez-vous de leur réaction jusqu'à présent?
Bon, jusqu'à présent, on ne sent pas vraiment la présence de l'État qui dispose du monopole de la violence légitime. Au début, on avait remarqué une présence plus importante de la police, mais ces jours-ci, on ne voit pas vraiment les actions de la police. Il y aurait un manquement par rapport au devoir de la police. Maintenant, quand nous parlons de la police, il faut voir une police non équipée, une police qui n'a pas vraiment les moyens pour affronter les gangs. Donc, c'est pourquoi nous plaidons pour que la police soit renforcée, qui dispose de technologies, mais une police sans moyens, une police au rabais, eh bien, ça ne peut pas vraiment donner de la sécurité.
On connaît depuis longtemps les faiblesses de la police que vous nous rappelez. Est-ce que vous pensez qu'elle risque de se, en l'absence de moyens, de se reposer sur ces groupes, sur ces actions du mouvement Bois-Calais?
Bon, c'est possible, parce que le mouvement Bois-Calais, c'est une réponse de la population question. Le citoyen a un rôle et crucial à jouer dans la sécurité, mais la police ne peut pas se permettre de se contenter des actions de la population pour ne pas assumer sa responsabilité, d'autant plus que dans le mouvement Bois-Calais, comme c'est en tant que mouvement populaire, en tant que réaction bien sûr populaire, il y aurait des dérives et nous étudions, nous travaillons sur plusieurs cas de simples citoyens qui seraient victimes du Bois-Calais. Donc, le rôle des institutions régaliennes, le rôle de la police, le rôle de la justice, c'est d'intervenir pour rétablir l'ordre, pour encadrer la situation, sinon on risque de tomber dans des dérives assez considérables.
Au Pérou, rien ne s'améliore depuis le renversement du président Pedro Castillo en décembre dernier, qui a usurpé le pouvoir. Dina Boluarte, qui avait promis des élections anticipées pour 2024, a décidé maintenant de rester jusqu'en juillet 2026. Un rapport de RFI.
Au Pérou, la présidente par intérim n'avancera pas la date de l'élection présidentielle.
Ce thème de adelanto de élections est cerrado.
Ce thème de l'avancement des élections n'est plus d'actualité. Nous continuerons de travailler de manière responsable et conformément à la démocratie. Nous continuerons jusqu'en juillet 2026. C'est ce qu'a affirmé hier Dina Boluarte, représentante autre part El Comercio. 2026, la fin du mandat de Pedro Castillo, dont elle était la vice-présidente et qu'elle a remplacé l'an dernier. Pedro Castillo, accusé d'une tentative de coup d'État, est actuellement en prison. La chef de l'État, remarque Expresso, tenait un discours différent il y a quelques mois, lorsqu'elle affirmait que son gouvernement était un gouvernement de transition et qu'elle lançait un projet de loi pour avancer les élections, alors que les manifestants demandaient dans les rues du Pérou le retour de Pedro Castillo.
Et la présidente s'enorgueillit, c'est ce qu'elle a fait hier, d'avoir mis fin à ces protestations, sans jamais remettre en question la brutalité des forces de l'ordre. Écoutez.
Concrètement, de décembre dernier au mois de février, nous avons été des pompiers qui ont éteint près de 500 manifestations violentes.
Maria Lourdes Coca Luján, immigrée aux États-Unis, enregistre dans son garage de la banlieue de Washington une émission suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux pour valoriser la culture et la langue quechua, ce peuple autochtone vivant essentiellement dans les régions andines de Bolivie et du Pérou. Un dossier de RFI.
Reportage à présent au Venezuela, à la rencontre de ceux qui reviennent d'exil. Ils sont de plus en plus nombreux parmi les plus de 7 millions qui avaient quitté leur pays depuis 2017. Beaucoup rentrent par leurs propres moyens et non pas grâce au plan du gouvernement Retour à la patrie. On ne sait pas toujours dans quelles conditions ni pourquoi. Retour pour combien de temps surtout ? Élément de réponse dans ce reportage d'Alice Campagnol.
Je n'ai pas de billet de retour, mais j'évalue toutes les possibilités. J'ai un plan A, B et même un plan Z.
David est rentré au Venezuela en avril dernier, après 5 ans à l'étranger, entre le Pérou et la République dominicaine. Il est revenu pour accompagner sa mère, malade, mais il n'est pas sûr de rester, notamment pour des raisons économiques.
Je sens qu'il n'y a pas vraiment de fondation solide au Venezuela. D'abord, on ne sait pas ce qu'il va se passer avec les élections, et puis l'économie est toujours très fragile. Tout ce que tu gagnes, tu dois le convertir en dollars très vite, car si tu le gardes en bolivar, un jour tu as 1 million et le lendemain, ce n'est plus qu'un bolivar. Que fais-tu dans ces conditions ? Certes, on ne vit plus la folie inflationniste d'il y a 5 ans, mais nous avons toujours l'inflation la plus forte au monde.
À 50 ans, le journaliste prétend à une vie plus stable où son salaire lui permet de vivre correctement et de se faire plaisir, comme il le dit.
Je ne suis plus un gamin, quoi. J'ai 50 ans, une belle carrière. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc je cherche à avoir plusieurs clients, faire du freelance, histoire d'arriver à une rémunération qui me permette de vivre bien ici. Et si j'ai envie de revenir au Pérou, j'ai jusqu'au 4 octobre. Le 5, je perds mon permis de résidence.
Des histoires de migrants, Anitza Freitas en a écouté beaucoup. Elle est démographe de l'université Andrés Bello et elle étudie la migration de son pays.
Avec les enquêtes que nous menons avec l'université, nous avons tenté d'évaluer les flux de population. de toutes les personnes qui quittent le pays, entre 5 et 6% d'entre elles rentrent, selon ce que nous disent les familles. C'est un pourcentage assez bas.
S'ils ne sont certes pas aussi nombreux que les Vénézuéliens qui quittent le pays, qui seraient plus de 7 millions, ceux qui reviennent reflètent tout de même une réalité, des conditions de vie difficiles dans les pays de migration, par exemple, ou la difficulté pour entrer aux États-Unis, ou bien encore des espoirs de reprise économique, comme Carlos Olivo, qui revient à peine du Mexique, où il a travaillé dans la restauration.
Au Mexique, c'est plus facile de gagner de l'argent. Les loyers sont moins chers. Acheter à manger, c'est très bon marché aussi. Donc j'ai toujours réussi à mettre de côté en me disant, je rentre avec ce pécule. Moi, je suis revenu avec l'idée de développer le tourisme ici. Je veux monter un restaurant pour donner du travail à des gens et également pour offrir des plats accessibles aux touristes qui viennent profiter de nos plages.
Carlos, comme beaucoup de ses compatriotes, veut réactiver son pays qu'il a laissé pendant si longtemps. Lui veut monter un commerce. Wendy, 29 ans, veut faire bouger la vie culturelle caraqueña.
Une situation très critique selon moi, c'est l'état de la culture actuellement. Nous vivons une urgence culturelle, je crois, et ce qui me plairait eh bien, c'est de monter une société de production à cheval entre l'Argentine, où je vivais et où j'ai des contacts, et ici au Venezuela.
Si chaque histoire est différente entre ceux qui rentrent définitivement et ceux qui hésitent, une chose est certaine, l'envie de ranimer le pays est présente chez tous ces migrants vénézuéliens de retour dans leur patrie.
Maria Lourdes Coca Luján, immigrée aux États-Unis, enregistre dans son garage de la banlieue de Washington une émission suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux pour valoriser la culture et la langue quechua, ce peuple autochtone vivant essentiellement dans les régions andines de Bolivie et du Pérou. Un dossier de RFI.
Notre dossier du jour à la rencontre de Cancha, le nom d'une influenceuse bolivienne installée aux États-Unis. Ouvrière dans le bâtiment le jour, elle se met en scène l'après-midi pour mettre en avant la culture et la langue quechua. Chacune de ses émissions, Justine Fontaine, est suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux.
Depuis son garage dans la banlieue de Washington, aux États-Unis, Cancha commence son émission vers 16h30 ce jour-là. Elle alterne parfois dans une même phrase entre l'espagnol et le quechua, sa langue maternelle. Et elle s'accompagne de musique traditionnelle bolivienne. Maria Luz Coca Luján, de son vrai nom, a 32 ans. Elle est arrivée aux États-Unis en 2017 après avoir étudié la langue quechua dans son pays. Elle diffuse son émission en direct sur Facebook pour les plus âgés et sur TikTok pour les plus jeunes. Objectif, créer un pont entre les générations par l'apprentissage de la langue et de la culture quechua.
Ici, les immigrés boliviens parlent un mélange incroyable d'anglais et de quechua. Et les jeunes apprennent comme ça, ils sont curieux de savoir ce que disent leurs parents. Finalement, c'est un peu pareil avec mon émission. Quand je dis quelques mots en quechua, ils demandent à leur père ou leur mère qu'est-ce qu'elle dit. Ce n'est pas une méthode scolaire très classique pour apprendre la langue, mais c'est une autre manière d'enseigner le quechua.
Pour faire son émission, elle met des vêtements traditionnels des communautés autochtones de Bolivie, un haut très coloré, un chapeau, de longues tresses et une jupe ample, la pollera. Les femmes qui s'habillent comme ça sont appelées les cholitas. Près de 40% de la population bolivienne est indigène, mais certaines cholitas sont encore aujourd'hui victimes de discrimination, notamment à cause de ces vêtements. Pour Maria Luz, ses habits sont au contraire une manière de se sentir plus proche de sa mère et de montrer qu'elle est fière de son identité, même en étant loin de son pays natal.
Cette
idée selon laquelle les tresses et la pollera seraient juste quelque chose des zones rurales, cela a beaucoup changé. Beaucoup de femmes qui ne portaient pas ou plus cette jupe se mettent à la porter avec beaucoup de fierté, en se souvenant de leur mère et de leur grand-mère qui s'habillaient comme ça.
Le matin, Maria Luz travaille comme ouvrière dans le bâtiment. Le soir et le week-end, elle anime des mariages, des baptêmes ou des fêtes dans la communauté bolivienne des environs de Washington, une communauté de plus de 40 000 personnes. Elle n'imaginait pas que son émission allait connaître un tel succès et elle y voit le symbole d'un renouveau de la langue quechua, y compris hors de l'intimité familiale.
On est à une époque où il n'est plus question d'avoir honte ou de se dévaloriser. Une époque où parler le quechua permet au contraire de se sentir fier.
Maria Luz a commencé son émission il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle a près de 180 000 abonnés cumulés sur les réseaux sociaux. Des personnes qui la suivent depuis la Bolivie, les États-Unis ou même depuis l'Europe.
Empoderada, l'orchestre de tango avec une perspective de genre, sort son premier album. Elle forme un orchestre atypique de tango avec un nom emblématique, la Empoderada, celles qui ont pris le pouvoir, qui revendiquent leur volonté de donner de l'espace et de la voix aux femmes et aux dissidences. Ainsi se termine ce programme en français de Rai l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.